CKUT 90.3 FM. Vous êtes au lendemain de la veille. On a essayé de vous réveiller en douceur ce matin. Je suis en présence de César. Comment vas-tu ce matin?
Moi, ça va bien. Puis toi, moi?
Ça va bien, ça va bien. Tu as une semaine difficile, hein, je pense.
C'est pas ma semaine, on va dire, là. Puis le pire de tout ça, ben non, la meilleure de tout ça, c'est que c'est notre 100e épisode!
Oui, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, on s'est enduré, croyez-le ou pas, pendant 100 épisodes, sans se chicaner, sans s'arracher les cheveux, sans se tirer rien par la tête. On est des pacifistes.
100 épisodes.
Qui aurait cru?
Hey, here we are. 100 épisodes. C'est cool, comme c'est un milestone, là, hein, vous avez fait 100 épisodes. Moi, j'ai embarqué avec vous dans la 70e à peu près. Là.
Ouais, ouais.
Fait que je vous remercie encore pour l'opportunité. Mais même ça, je ne veux pas dire
merci à vous.
Là, il faut merci. Célébrer un peu l'épisode.
Avec une musique super lente.
Fait qu'on s'est dit, on va commencer un épisode de méditation.
Oui, transcendantale.
Transcendantale. Aligner vos chakras d'en haut jusqu'en bas, au pelvic bone. Fait que...
Yoga chaud.
Des roches chaudes dans le dos, puis tout. Non, j'aime pas ça, non, merci. Mais je vous présente John Hopkins, Echo Dissolve, de l'album Singularity, sorti en 2018. On vous a donné juste un petit aperçu. Si on va dans les petits détails de cet album-là, il joue le motif de l'album. C'est de la mélodie qui revient dans plusieurs chansons. Fait que déjà que la première chanson, Singularity, puis Emerald Rush, c'est vraiment un build-up après build-up. C'est un peu progressif, on va dire. C'est pas un album électro... on va pas dire techno. C'est plus électronique, mais un peu de 4x4, hein, 4 on the floor, comme on dit. Puis, c'est comme une petite journée. Genre, c'est un up and down. Ça commence fort, fort, fort. Puis après, c'est un peu plus tranquille. Puis la plupart des chansons sont au moins 5, 6, 7 minutes de long. Fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment... Ça change. Puis c'est là. Faut l'écouter fort. Il y a beaucoup de bass. Fait que ça, c'est John Hopkins. Il y a aussi son album Immunity, sorti en 2013. L'année passée, c'était son 10e anniversaire. Il l'a remasterisé. Je vous recommande fortement. Chanson Open Eye Signal, qui est très... vraiment cool, c'est un 8 minutes épique.
Moi, ouais, c'est même, des longues pièces, ce que j'ai vu.
C'est des longues pièces, il y a comme un build-up. Fait que tu t'embarques, c'est très. On parle de méditation, fait que c'est très méditatif, c'est ça. Tu sais, quand tu as un espèce de un loop dans l'électro-techno, ça, ça devient comme une.
Comme un mantra, comme un beat tribal qui t'en revient.
C'est comme. C'est transcending, ouais, c'est un peu un trance, on va dire. Mais Open Eye Signal, il y a un beau visuel, un beau vidéo. C'est un petit jeune qui fait du skate là, en plein milieu du désert, là, en Californie. Puis il y a juste ça, c'est juste ça le vidéo. Fait que tu sais, il n'y a pas trop des effets. Puis de garder en l'air. Non, c'est juste, c'est nice, c'est smooth. Puis tu as le gros beat en arrière qui arrache.
Il boit-tu en faisant son skate? Est-ce qu'il boit du jus de cranberry?
Non, non, ça c'est avant. C'est avant, c'est avant que les ventes de Fleetwood Mac ont monté par cette chanson-là. Là, puis ils ont monté à 1000% dans les streams. Anyway. Fait que that's it. Ça c'est la musique pour commencer le 100e épisode. On va voir des films, on va voir des bandes dessinées comme d'habitude.
Non. Ben oui, on devrait, mais...
On a une pause des bandes dessinées?
Ben, je suis en train d'aller plein en même temps, j'en ai pas vraiment une de fini, puis non. Je vais parler de littérature, d'un livre, d'un auteur québécois qui mérite d'être connu. Dernièrement, on avait parlé de Millennium avec la nouvelle autrice qui a un nom de vodka bien connu, Smirnoff. Et comme quoi que la nouvelle trilogie donnait espoir à cette saga-là.
Ouais.
Et là, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Suède pour lire des polars ou des thrillers psychologiques capotés. On a nos auteurs, on a Camille Bouchard au Québec qui en fait des très bons. Dans un autre registre, Patrick Sénécal vient de sortir un nouveau livre que je n'ai pas encore lu. Là, il sort, là, il vient de sortir des presses. Fait que l'encre est même pas encore séchée. Mm. Mais aussitôt que c'est fait, je vais me le procurer, je vais me lire. Je vais me lire à moi-même. Je vais lire, c'est une grosse brique. Et là, ce que j'ai, c'est un livre de Jean-Jacques Pelletier qui s'appelle tout simplement « Bain de sang ». ». Et c'est paru chez Urtubi, je pense, en 2018. Je regarde en dedans, mais là, c'est peut-être pas son plus récent, mais ça, c'est pas important. Plus autre mesure. Cet auteur-là, je vais juste vous l'introduire un peu. C'est un auteur très prolifique qui écrit souvent aussi des briques. Et il a fait des sagas. Il a fait des sagas dont la plus populaire est La Fin. Pas La Fin comme on a faim comme le matin pour déjeuner. La Fin de la Terre, Le Bien des Autres, Les Visages de l'Humanité, etc., etc. Et là, il a commencé à faire des espèces de romans polar-policier avec un inspecteur qui revient assez souvent. C'est l'inspecteur Henri Dufault qui a une unité spéciale à la police urbaine de Montréal. Et tous ses collègues, lui, c'est comme le chef de cette équipe-là, ils ont tous il y a des hommes, il y a des femmes de différents milieux, tout ça. Et ils ont toutes des personnalités très, on va dire, hors normes, mm-hmm. un peu marginales. Tu as le hacker, ça prend un hacker qui est rendu policier ou qui les aide.
C'est la norme.
C'est maintenant. La norme maintenant, tu sais, de mettre les criminels dans les...
Ils ont besoin d'un job pour payer les impôts.
Exactement. Fait que cet auteur-là, comme je te dis, on n'a pas besoin d'aller loin. En gros, je vais te lire la quatrième de couverture. Quoi d'autre que je voulais dire sur Jean-Jacques Pelletier? Il y a tellement de choses à dire. C'est que c'est un essayiste, c'est un sociologue. Je pense qu'il est politicologue aussi. Il est vraiment. Il s'intéresse beaucoup au marché financier. Fait quand il a fait sa fameuse série La Fin de la Terre et Le Bien des Autres, qui sont des énormes briques, comme je te dis, les chapitres, il n'y a pas de chapitres, c'est des espèces de petits paragraphes. OK, on est à Montréal, telle heure, il se passe telle affaire dans le quartier Mile End. À Dubaï, à 18h le soir, un autre personnage. Là, on se dit, c'est très anecdotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, on saute, c'est comme du zapping. C'est comme, il se passe plein d'affaires, mais là, c'est comme un gros puzzle. Tu as juste les pièces. Puis là, petit à petit, tu comprends l'ensemble de l'œuvre et là, tu t'embarques. Mais c'est une écriture qui peut être abrupt à première lecture. Tu es comme, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais embarquer là-dedans? Mais là, il y a des personnages qui reviennent. Là, tu vois des liens. Pendant qu'il se passe ça à l'autre bout du monde, c'est le jour. Là, c'est la nuit. Dans un autre endroit, il se passe de quoi? Mais tout est interrelié.
Tout se relie après.
Tout est interrelié. C'est un peu aussi l'effet du papillon, là, la fameuse théorie que les battements d'un papillon, admettons... au Mexique pourrait faire un tsunami en Thaïlande. C'est genre de... Okay. Mais c'est tout s'imbrique. Dans celui-là, c'est l'inspecteur Dufault qui, au cours d'une enquête, il croisera notamment des trafiquants d'êtres humains, un mafieux pianiste et philosophe, un ministre adepte de galipettes thaïlandaises, un psychanalyste gentiment sarcastique et un producteur porno qui veut sauver l'Occident. Fait que encore là, ces personnages sont assez
très
rock'n'roll.
C'est très spécifique comme personne.
Il est allé chercher un casse-type assez spécial.
Il n'y a pas un gars qui travaille dans la bibliothèque, quelque chose de même.
Quelqu'un
de
tranquille ou dans un entrepôt.
Il
ou dans
comme
un
Michael Douglas, là. C'est quoi le film, là? Il vire fou puis il commence à Falling Down.
Ah, Falling Down. Ben moi, j'avais oublié ce film-là, c'est classique.
Ça prend quelqu'un comme...
Anyways. Normal qui fait un downfall. Mais ils sont sont assez spéciaux là-dedans. Fait que là, il va croiser également sur son chemin un militaire multidécoré, résolument misogyne, un icône de l'art hyper collectif, un pasteur pro-vie qui se prend pour Mère Teresa et un homme d'affaires ayant la conscience d'un requin qui aurait suivi des cours de droit. Fait que là, Dufault, en plus de son équipe qui est très hétéroclite, là, faut qu'il deal avec un espèce de meurtre. C'est, il y a un bain, il y a du sang, puis il y a un cadavre qui baigne dans le sang. Fait que c'est comme un jeu de mots, hein? Ça s'appelle bain de sang, mais c'est un bain de sang au sens figuré et littéraire, parce qu'il y a beaucoup de sang, et ça peut pas être le sang de juste une personne. Le cadavre qui est dans le champ. Parce que la baignoire est remplie là, jusqu'au top. Fait que c'est là-dedans que Jean-Jacques Pelletier nous embarque avec son fameux policier qui a lui aussi à composer aussi avec une épouse qui est décédée récemment, mais avec qui il communique.
Oh boy.
Fait que c'est assez particulier, c'est super bon. C'est nice. Du ce que j'appellerais du page-turner. Alors, regarde juste la belle pochette. Je vais la décrire pour nos auditeurs et auditrices. Ou aller googler « Bain de sang » de Jean-Jacques Pelletier. Ça a l'air d'être la ville de Montréal. Une photo en noir et blanc. Et en haut, le nuage, c'est un nuage de sang. Tout ça. Fait que bon appétit. Mettez du ketchup sur vos œufs ce matin. Puis je vous conseille vraiment... là. Je vous conseille surtout ces trilogies, La fin de la Terre et le bien des autres.
Okay.
Fait que si vous aimez Millennium, si vous aimez les crime polars thrillers. Suédois, ouais, crime thrillers, la politicarie, et il y a des... j'ai mis des post-it. Tant qu'à y aller, on va y aller full-on. Je vais lire un petit extrait. Et là, ça me faisait penser justement à Stieg Larsson, le fameux auteur de Millennium. OK, fait que là, dans le livre, à la page 215, on dit... On a déjà pensé à fonder un club d'optimistes anonymes. On avait même trouvé la devise du groupe. Toujours imaginer le pire, parce que c'est la meilleure stratégie pour maximiser ses chances d'être agréablement surpris de temps en temps. Fait que ça, c'est un des enquêteurs qui est sous l'équipe de l'enquêteur principal qui dit ça à Henri
Dufault. C'est le philosophe mafieux pianiste, ça?
Non, ouais, c'est vrai, ça ressemble à ça. Et là, il y a un autre personnage coloré dans son équipe. Fait que là, l'enquêteur, il voit... Il se demande une question... il semble se demander si la question est sérieuse. Fait que là, il dit, c'est le titre du premier single des Dead Kennedys, m'explique-t-il finalement, 1978. California, Uber, Alice. Ça ne vous dit rien du tout, parce que là, tu sais, son boss, il est quand même un peu plus vieux, puis l'autre, il est dans le punk rock, un de ses enquêteurs. Pourtant, c'est de votre époque, vous devriez connaître ça. Il faut croire que j'ai raté mon époque. Intérieurement, je me dis que ce n'est peut-être pas faux. Il faut se méfier de ce qui nous vient trop spontanément à l'esprit, comme dirait Von Paulus. Il arrive que ce soit vrai. C'est une chanson qui se moque des tendances nazies du gouverneur de la Californie de l'époque. C'était Jerry Brown à ce moment-là. Le plus drôle, c'est que Brown est redevenu gouverneur de la Californie et qu'il s'est battu contre Trump en le traitant de nazi. Fait que tout est dans tout. Parce qu'on sait qu'il y a des T-shirts qui avaient circulé Nazi Trump, F, trois petits points avec un K, off. Yeah. Fait que c'est ça qui est ça. Moi, j'ai bien aimé la culture générale de Jean-Jacques Pelletier. Je ne m'attendais pas à lire puis qu'il y ait des référents à la culture punk rock. Puis
qu'est-ce qui s'est passé en 2017-2018?
Exactement. Politique, quoi. Ouais, je regardais encore.
Trump a été élu en 2016.
Ouais. Puis il va peut-être revenir. Mais c'est ça.
À suivre.
Hey, je te parlerai pas, il y a eu une éclipse solaire.
Oh boy. C'est quoi ton review de l'éclipse solaire? Là?
Je l'ai vu, ça arrive sud, et j'ai apprécié le phénomène culturel sur place. Les nombreuses familles, les gens qui de tout âge, des jeunes enfants, des personnes retraitées qui sont assis en dépliant leurs chaises spatiaux puis en attendant cette chose-là. Moi, je m'attendais, première des choses, à ce que ça dure... Moi, on m'avait dit que ça durait environ une minute trente, quand tu pouvais retirer tes lunettes. Puis moi, ça a duré comme 30 secondes. Je les ai enlevés, j'ai vu ça, j'ai dit « Wow, OK ». Puis là, il fallait les remettre pour pas abîmer notre belle vision 10-10. Mais ce qui m'a agréablement surpris, j'en avais lu, j'en avais entendu parler, c'est que la température allait descendre et on était près d'un parc. Il y avait des arbres, il y avait beaucoup d'oiseaux qui chantaient. Et là, quand c'est devenu obscur, ça a arrêté de chanter. Fait que je sais pas si les oiseaux ont dormi pour une couple de minutes. Puis là, quand la lumière a recommencé à sortir, là, ils se sont réveillés puis recommencé à chanter.
Ils ont paniqué, ils ont senti un tremblement de terre.
Ouais, mais j'ai juste senti comme si quelqu'un avait mis le volume à off, ou l'ont muté ou l'ont descendu. Il n'y a pas eu comme, tu sais, comme des cris alarmants. Ils piaulaient, puis là, ils ont arrêté. Puis là, c'est revenu, puis là, ils ont recommencé. C'est comme s'il y avait eu une pause. C'est comme s'il y avait eu un... Puis ça m'a fait penser à bien des films d'horreur, là, tu sais, que Don't See, ou que tu peux pas écouter, là, je pense.
Don't Breathe,
ou tu sais, toutes ces affaires-là, Sandra Bullock, qui est un film, là, que si t'entends le monstre...
Bird Box.
Ouais, c'est ça. Tu sais, ce genre de... Fait que là, je trouvais ça spécial, donc, ouais. Pour ça.
Ben, moi, je te dis... Moi, je donne un gros 0 sur 10 sur l'éclipse solaire, parce que... je comprends pas. De un, je me suis dit... Il y a une autre façon. Je me dis, on peut voir l'éclipse solaire pendant plus qu'une minute. Je me suis dit, enlevez vos lunettes, regardez le soleil, puis vous pouvez le voir avec les yeux fermés après ça pendant un bon 5 minutes. Ça dure plus longtemps. Moi, c'est okay. Ça que je disais. Je l'ai fait pour 2 secondes, puis je l'ai pu le voir, il était resté dans mes yeux. Mais anyways...
Mais tu as mis des lunettes pareilles. Là.
Non, je n'ai pas vu. Moi, je suis un vrai. Là. Je l'ai regardé avec mes vrais, mes yeux. Raw, uncut. Je l'ai vu devant, puis je dis, whatever. Puis j'ai continué sa route. That's it.
OK.
I don't care about l'éclipse solaire. Come on, man.
T'as des extraits. Les enfants, ne faites pas ça à la maison. N'écoutez pas César. Non. C'est un mauvais conseil.
Non, le meilleur, c'était...
Mais le lendemain, dans le journal, toutes les optométrices se faisaient appeler. Puis il y a du monde qui avait des problèmes de santé oculaire.
Oh, ben.
Fait que ça, c'est un peu moins drôle.
Moi, je pense que c'est plus un appel de panique. Là. Ouais, est-ce que mes yeux sont corrects? Ouais. je vois encore un point bleu. Dans le temps. Non, là, la meilleure de ça, c'était... Je roulais sur une autoroute, puis je me disais, ben, tu sais, c'est tout le champ de foin, il n'y avait rien. Puis là, il y a juste un gars avec son auto parké sur le côté, en plein milieu de l'autoroute.
Chose à ne pas
faire. Sur le côté.
Ouais.
Puis je me disais, ah, ben, il y a un gars qui s'arrêtait à l'autoroute pour regarder l'éclipse solaire. En même temps que je me disais cette pensée-là, je m'approchais un peu plus, on roulait tout à 100. Non, le gars est en train de. Puis c'est à côté de son char, puis il regardait le soleil de face.
Burn, baby, burn.
Il a dit, okay. I can do two things at the same time. So.
C'est drôle, sur des ponts, je ne sais pas si c'était des mimes ou des vraies choses, il était marqué sur des ponts, je ne sais pas si c'était aux États-Unis ou peut-être ailleurs au Canada.
J'étais à l'éclipse solaire.
Non, il est marqué, vous n'avez pas le droit d'arrêter pour regarder l'éclipse solaire.
Oh boy.
Tu ne peux pas arrêter sur...
Ça, c'est dangereux.
Une chance qu'ils l'ont dit, parce que je suis sûr qu'il y aurait du monde qui a dit, je vais arrêter.
Je vais arrêter, là, puis je m'en fous du gars en arrière.
Puis là, après, ça va faire... Tout, ça va faire comme un effet accordéon de... Hey, on est super réveillés ce matin, comme vous pouvez le voir, ce lundi matin. Post-apocalyptique. Non, post-lunaire, post-délire. C'est le fun, mais il faut en revenir. Moi, j'ai trouvé ça, le hype des lunettes incroyable. Je pense que tu aurais fabriqué des lunettes. On serait millionnaire aujourd'hui.
Ah.
Je pense que le monde était prêt à tuer pour avoir des lunettes solaires gratuites en carton. Que tu as vu après ça dans les poubelles ou au recyclage ou traîner comme les masques. Fait que c'est comme un bien pour un mal ou un mal pour un bien.
Ouais, tu le gardes, puis au moins ça dit 2024 sur le côté, puis en 2044 aux États-Unis, c'est comme tu peux les revendre. Là.
C'est ce que je vais faire.
Garde-les pour 20 ans vos lunettes.
Ouais, exact.
Vendez-les, shippez-les à Montana, whatever, dans le coin nord-ouest des États-Unis.
Dans l'Utah. Puis,
dans l'Utah.
Non. Mais moi je vais les garder, je vais les mettre sur mon testament, je vais les léguer aux prochaines générations. Il va y avoir un coffre à ouvrir juste à ma mort.
En cas d'apocalypse, vous allez juste déguer le cercueil à Marc-André, ils vont avoir plein de lunettes.
Exactement.
Pour l'éclipse solaire, juste au cas où.
Comme un pharaon, tu sais, ils s'enterraient avec leurs animaux,
ouais.
Puis avec leurs bijoux, moi, les seuls bijoux que je lègue, c'est des lunettes solaires. Mais j'ai vu du monde, je sais pas si c'était des Mexicains, mais je sais pas où est-ce qu'ils étaient. Ils devaient... Parce qu'au Mexique, tu le voyais aussi.
Okay.
Puis il avait sorti, ma blonde me disait qu'il y avait eu une éclipse totale aussi au Mexique quand elle était petite. Puis j'ai vu, c'est comme un morceau de carton. Il n'y a pas de les pattes, on va dire, pour mettre en arrière des oreilles. C'est juste comme un morceau de carton jaune avec ça ressemblait plus à des lunettes de film 3D qu'on pouvait regarder
un bleu rouge là.
Ouais, mais c'était ça avait l'air vraiment etchy, ça avait l'air vraiment moyen comme affaire. Puis il y avait quelqu'un qui avait sorti ses anciennes lunettes de ça, mais je suis sûr qu'ils sont pas ISO sur côté sécurité, c'était zéro, mais c'était très drôle que c'était comme un artefact culturel là, qu'on a, on...
C'est pas ultraviolet proof, là.
Non, c'est ça. C'est... Mais tu... Ah, il y a une... Ah, puis tu peux regarder des films en 3D. Un bord rouge, l'autre côté bleu.
Oh boy, non.
Hey, en parlant de films psychotropes, je sais pas comment le décrire. Je sais pas comment...
Je pense que c'est un classique moderne dans les mains, là.
Oui, c'est un classique du mauvais goût, je crois. De retour d'une mission sur Mars, le commandant Ross n'est plus tout à fait le même. Il devient lentement une entité terrifiante qui n'a qu'un seul but, procréer avec des humains. Alors que d'innombrables femmes meurent de façon horrible après avoir accouché de semi-extraterrestres, la scientifique Laura Baker et le tueur à gages Presley Knox utilisent Eve, qui est une clone intersidérale qui est plus contrôlable que les autres, là, finalement, pour retrouver Ross et sa dangereuse progéniture. Mais ils ont sous-estimé l'instinct maternel d'Eve qui s'échappe avec Ross pour engendrer une espèce pure et invincible qui pourrait sonner le glas de l'humanité. Alors que le temps file, la bataille ultime entre l'intelligence humaine et la force extraterrestre atteint son apogée, il met à l'épreuve la théorie de Darwin. Tu sais, la fameuse théorie de l'espèce des évolutions, l'évolution des espèces.
C'est pas un livre de scientologie que tu me lis, là?
Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Dans un combat où seule la plus forte des espèces survivra. Quel film pensez-vous, mesdames, messieurs, que je suis en train de décrire, qui est sorti quand même sur MGM, peut-être directement en VHS et en DVD.
Ah, oh, straight to DVD.
Straight to DVD. Ça dure 1h33 minutes. C'est en couleur. Il y avait la couleur dans ce temps-là. T'as pas besoin de lunettes. Les effets sont ce qu'ils sont. C'est sorti en 1998. C'est le deuxième que je n'avais jamais vu d'Espèce 2.
Species 2.
Et là, regarde, tu rouvres la DVD. J'aime ça. Tu rouvres la DVD et t'as l'actrice qui est comme sur un banc de décès. On dirait un banc de... Il n'y avait pas de budget, hein,
en passant. Dans le temps, ils voulaient mélanger genre la semi-pornographie puis horreur.
Oui, ben c'est ça. Il y a une mise en garde. C'est érotisme et horreur, c'est ça? Horreur et érotisme.
Horreur et érotisme.
16 ans et plus au Québec. Et là, il y a comme un petit livret en dedans qui montre deux extraits du film, qui parle des effets spéciaux et tout ça, et les différentes scènes. Et là, sur ce petit booklet-là, c'est que on dirait qu'il est sur une chaise, là, comme quand tu vas au gym là, pour faire tes étirements de bench press de pied ou de je sais pas trop quoi.
Moi, je veux dire, c'est genre le petit siège pour l'orbite à la ronde. Là, il va se faire shooter en l'air.
Ah ouais, ben ça peut être ça, ouais. On pèse sur eject et bonsoir, elle est partie. Et là, elle est comme nue. Ben ouais, elle est nue, mais elle a des straps bleus qui cachent sa poitrine. Et au cou, elle a un autre... C'est comme des ceintures. C'est des grosses ceintures bleues. Puis elle a ça au cou. Puis même si elle est attachée, elle a tous les cheveux peignés par en arrière, bien gominés, là, comme John Travolta dans Grease. Là. Fait qu'elle est emprisonnée. Là, et, t'sais, elle est prise. Elle ne peut pas bouger son corps. Mais elle est immobile, mais elle est bien peignée. Elle ne s'est pas déchaînée. Ses cheveux ne se sont pas dépeignés. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que
je me demande pourquoi
tu as
pris le deuxième et pas le premier.
Oui, mais le premier, je l'avais vu il y a bien longtemps quand ça avait sorti,
ouais,
en 97,
hit,
je pense.
Oui, c'était un hit.
Oui, ça avait cartonné parce qu'il ne s'attendait pas à avoir du succès. Non. Puis pourtant, c'était un film bien baissé qui a un côté très copié d'Alien.
Oui, mais c'est ça le catch. Tu mets une belle fille dessus, puis un côté science-fiction, puis tu vas voir plein de monde. Hey, on va voir Species. Ouais, ça va être un peu épeurant. Hein?
Ouais.
Mais quoi, c'était quoi, 96, 97, t'avais Alien Resurrection dans le temps, t'avais Event Horizon aussi. Il y a d'autres films un peu...
dans ces eaux-là. Ces années-là, ouais. Ouais. Fait que là, ils ont dit, nous aussi, ça nous en prend un.
Fait qu'il y a comme un boom d'horreur science-fiction fin 90.
Mais ouais. Ne vous trompez pas, le seul que vous devez voir, c'est les Aliens.
Ben oui.
Mais...
Parlant d'Aliens, le trailer de Alien Romulus, mais un teaser trailer, il est sorti.
Ah ouais, OK.
C'est directed par Fede Alvarez, qui avait fait les reboots de Evil Dead les dernières années.
OK.
Puis, je te dis, le teaser trailer, il y a quelque chose, là. Puis, lui, il s'est dit, back to the roots, là. Back to the roots, là, avec la paranoïa, avec garder ça très, très sombre. Puis, lui, j'ai vu le premier reboot, là, le Evil Dead. Puis, c'était quand même intense. Effets spéciaux, côté horreur.
Ouais.
Comme ça H majuscule,
du... Ouais, ça ressemblait du Sam Raimi, qui est encore producteur.
Tu sais, c'était vraiment... Vraiment intense. Moi, je suis vraiment desensitized. C'était juste comme, ah, comment il a fait ça? Puis, il y a quelques moments que c'était vraiment, OK, cool. J'ai pas vu le deuxième encore, mais j'ai hâte quand même qu'est-ce qu'il va
il
faire.
Il est sorti, le deuxième?
Le deuxième, il est déjà, ouais, c'est Evil Dead Rises. Il est sorti, je sais pas en quelle année. C'est dans ma liste de films que je veux voir. Mais là, lui, ils l'ont engagé pour faire Alien Romulus. Puis ça, c'est le premier film que... Ben, premier film depuis un bout, mais dans le sens que Ridley Scott, il step back de la franchise.
Ouais.
Puis ils ont comme genre annulé l'autre franchise d'avant avec Alien Covenant qui est sorti en 2007. Puis ils ont comme juste fermé un peu ça, puis ils ont reparti à nouveau. Puis c'est ça. Fait que ça va être quelque chose, ça va être intéressant. Puis on va en voir. Mais là, on s'en va en pause.
Ouais.
Et on va vous jouer une toune après la pause. Tantôt.
Restez sur les ondes de CKT 90.3 FM.
We ain't gon' never die, no. We ain't gon' never die. I'm an icon in real time. Why'd I wait this long to tell them I'm ill, man? We ain't gon' never die. We ain't gon' never die, no. Yeah. We ain't gon'. We ain't gon' never die. Icons in real time. Why did I wait this long to let y'all in my ill mind? I think the hate was strong, so I went to a chill vibe. Could never say goodbye. I let my skill cry, let my soul bleed. Inside a rose, wearing rosaries. Homie, I love the new NY, cause I'm the new NY and the old NY at the same time. I always hit the last shot when it's game time. The Jordan Kobe Braun talk, take a long shiesty. Swoop through, I'm like Detroit Red in a zoo suit. Loose screws, any great challenges, I find a loop through. Loopholes, why they treat me so bad, Club Nouveau. Damn. The times we living in is crucial. This my Tom Cruise flow. Top Gun, they too slow. Computers ain't fast enough to keep up with nasty cuz. We ain't gonna never die. Never die, never die. We ain't gonna never die. We ain't gonna never die. We ain't gonna never die. Icons of real time. Icons of real time. We ain't gonna never die.
Stepping on pythons, spitting that cayenne. Eat you like Zion, peeking at the skyline. Reaching for the stars like I'm reaching for the pylon. I seen you on the sideline, you need to walk a fine line. Need to read the guidelines instead of reading the timelines. Where everybody like line, nobody flow like mine. I'm sunning these niggas, got me coaching niggas like prime. Tongue, I never bite mine, got dough like taekwondo. To spend all this money, I'ma have to spend a lifetime. Broke, can't even buy time, should throw niggas a lifeline. No money on my mind, and I be on your wife mind. I hit her with the pipe bomb, then pass it down the pipeline. But actually, we quite fine. Diamonds on me sparkling and splashing like
like some white wine. They love me in the nighttime, they hate me when the light shine. Shots, I got 100, and problems, I got 99. Boo got it by Ryan, take off with no flight time. Babbage on the passenger side, she don't even like flying. Booty soft as nightline, you niggas small as my crime. I got a black Nina that get nasty as a white blind. Low credit, high crime, open mind, tight rhymes. When they hit my lines, these rappers gotta catch up like Hines. Weezy and my slime knives, ain't nobody like eyes. Like bygones, gotta let icons be icons. Hi, moms.
Et on est de retour le lendemain de la veille à Sécurité 90.3 FM. Donc, on parlait de Species 2. Et un petit détail qu'on voulait rajouter, c'est que tu disais les effets spéciaux ou c'est genre les costumes?
Pourquoi j'ai vu ce film-là? J'avais entendu dire que H.R. Giger, le maître des designs de films d'horreur, le créateur des... La bébête Alien. Il avait participé au Species. Là, je ne parle pas de qu'est-ce qu'on voit sa pochette. C'est à l'intérieur, à un moment donné, c'est la même affaire qu'Alien, dans le fond. C'est que les cacs, ils ont procréé, ils font des cocoons dans les airs, comme un cocoon de papillon, un cocon. Et là, ça se rouvre et là, les bébêtes sortent. Et les bébêtes, bon, elles ne sont pas pareilles comme Alien, naturellement, sinon ce serait bizarre, mais c'est aussi génial. Il n'y a pas de stop motion, il n'y a pas de CGI. C'est, d'après moi, ça ressemble à ce qu'on a connu dans le meilleur, dans le temps des Star Wars, d'autres affaires. C'est des marionnettes à la Jim Henson de Muppet Show. C'est un puppeteer, là, c'est une grosse marionnette. Puis bon, c'est sûr qu'ils vont peut-être ajouter des effets, mais tu sens le latex, tu sens le un peu comme dans The Thing de John Carpenter. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est le côté organique. Tu vois que l'acteur est à côté d'une marionnette, puis qui a peur parce qu'elle est grande et gluante. Tout ça.
Attention aux détails pour créer la marionnette, c'est. Comme je viens juste de voir The Thing, l'original, pour la première fois, il y a quelques... Puis là, tu sais, c'était vraiment un côté analytique, j'ai vu, tu sais, j'ai entendu parler. Mais, damn, là, ça fait quoi, 40 ans, là?
Puis l'effet, il est là, en chair de poule.
Tu sais, c'est un peu passé de date, dans un sens, mais vraiment, les effets spéciaux utilisés là-dessus, je pense qu'on pourrait...
Donner des leçons à ben des réalisateurs.
Ouais, puis je pense même si ça revient. Mais je pense qu'il y a déjà des réalisateurs qui utilisent plus des marionnettes. Mais un mélange de CGI et marionnettes. Puis ça fonctionne bien parce que ça laisse à notre imagination, ça laisse à le côté dégueulasse, genre juste extraterrestre derrière notre imagination, tu sais, genre nos peurs, des cauchemars. Puis là, tu vois vraiment devant toi l'horreur physique.
Puis on dirait, j'imagine, pour un comédien, c'est plus facile de rentrer dans le personnage puis dans tout ça que d'être devant un green screen.
Ben oui.
Puis d'avoir un Q, un X, puis un point qui dit « OK, ça, c'est la bébête », puis elle voit pas, puis il faut qu'il imagine qu'il a peur. Oui, si l'acteur est bon, il va quand même livrer la marchandise. Mais si tu l'as à mesure 6 pieds dans les airs, à bave, à cool, à juice, c'est sûr là, que ton corps il réagit, même si tu n'es pas vraiment en danger. Un exemple, dernièrement, j'ai recommencé à me réintéresser un peu à Star Wars. J'avais vraiment décroché. J'ai écouté The Mandalorian, qui a 3 saisons. Okay. Et je trouvais ça une gimmick un peu, le bébé Yoda qui est Grogu. Grogu. Puis je disais, ouais, mais j'ai embarqué, j'ai tombé dans le panneau, j'ai aimé ça. Ils ont su développer l'univers, développer des épisodes. C'est sûr que la première saison, c'est un peu redondant. Il arrive sur une planète, il y a une quête à faire. Pendant toute l'émission, il va se battre contre des méchants, puis à la fin, il finit. Puis là, sur le prochain épisode, il passe à un autre planète.
C'est un hommage au vieux show Western. Que c'est genre un épisode, c'est une histoire. Fait que ça bouge d'une ville à l'autre. Ouais. C'est un hommage à ça qu'ils ont essayé de faire avec le Mandalorian. Ils ne voulaient pas aller plus loin. Puis après ça, l'univers a juste commencé à grandir. Puis là, la saison 2, c'est un peu plus gros. Des petits spoilers, des petits bonhommes qui reviennent de la franchise. Là, j'ai décroché à la troisième saison. Là, j'ai dit, ah, j'ai tout vu, ça me tente plus.
Mais
de
il
voir.
Paraît qu'il fallait voir The Book of Boba Fett avant de voir le troisième. C'est comme un
oui, in-between. Mais c'est ça, c'est l'in-between. C'est ouais. Genre le 2.5 Mandalorian.
Exact, exact.
Puis là, je pense qu'ils vont faire un film pour le Mandalorian qui, je pense qu'il ferme toute la boucle là, avec tout le Ahsoka puis toutes les en tout cas, il y a tellement de choses maintenant dans les univers là, qu'on peut perdre le fil. Là.
On ne sait pas en quelle époque qu'on est, si c'est avant, après Return. Ouais. Ou
non, non. C'est depuis que Disney est embarqué là-dessus, là, il y a juste trop d'options pour adultes et enfants. En fait.
Oui, exactement. Et pour toddlers, pour des encore plus petits ouais. enfants. Fait que tu as les films qui est en... Moi, j'appelle ça en monsieur, mais qui a un autre terme là, en vrai, avec des vrais acteurs. Tu as les films en animation 3D. Puis là, tu as un autre série qui c'est plus des cartoons pour aller chercher un plus jeune public.
Mm-hmm.
Ça, c'est la gamique. Mais en tout cas.
T'sais, ça joue avec tout.
Ça joue avec tout. Là. On ratisse de 7 à 77 ans. La seule affaire que je veux revenir, c'est que Grogu, le bébé Yoda, tu t'attaches à lui, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne?
C'est
une marionnette.
Ouais.
Et là, eux, ils ont compris ça. Et je disais ça cette semaine, là, si Steven Spielberg et George Lucas ils écoutent, je m'appelle Jean Valjean. J'habite sur la rue des Misérables. Mais c'est que quand ils ont fait, admettons, Indiana Jones and the Skull, Crystal Skull, ouais. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient in control du CGI, puis ils ont sorti les espèces de petites marmottes qui sortent de la terre, puis pendant 3 minutes, tu vois des marmottes
ça
en CGI.
2008 pour toi.
Oui, mais c'est 2008, ça?
Oui.
OK, mais t'es bon, Dana. Mais moi, j'étais comme, OK, on sait que vous êtes bon, mais ça l'apporte quoi à l'histoire?
Ouais.
Ils se perdaient dans leur affaire juste pour montrer des effets spéciaux. Là, ils sont revenus à un équilibre de « on raconte une bonne histoire
ouais. »,
puis là, il y a des c'est sûr qu'il va y avoir des effets CGI, c'est des bébelles, c'est des outils pour raconter ton histoire, mais ils sont venus, et là, ils m'ont raccroché, parce que pendant bien longtemps, les films, surtout qu'est-ce que George Lucas avait fait après la première trilogie, c'était comme la guerre des... pas des droïdes, là, mais des... je suis pas dedans... C'est, en tout cas, la guerre des clones.
Ah, Attack of the Clones, oui.
Attack of the Clones. C'est comme, hey, là, tu viens, là, ouais. Tu viens d'enfoncer le clou dans le cercueil.
Mais check, dis-toi ça, que ouais. La dernière trilogie qui est sortie,
ouais.
Beaucoup de monde ont apprécié plus la dernière trilogie d'il y a 24 ans. Fait que t'as les générations.
Qu'est-ce que c'est, la première, le Return of the Jedi?
Non, je parle, la deuxième trilogie.
Okay, ouais, okay.
Fait que, Là, les jeunes qui ont grandi avec la deuxième trilogie, ils n'ont pas aimé la troisième trilogie, fait qu'ils apprécient encore plus la deuxième trilogie. Fait que c'est en génération en génération.
C'est une affaire de génération. Mais ouais. C'est parce que...
Puis imagine-toi le gars qui a aimé ouais. La première trilogie, il aime peut-être pas absolument aucune des deux trilogies, ils vont toujours dire que la première, c'est la meilleure.
Moi je vais dire ça, puis c'est vrai parce que j'ai grandi avec, sauf que je suis capable de reconnaître que la deuxième trilogie est moyenne. La troisième, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, même ouais. Si on répète un peu, ça sent le réchauffer.
On rejoue les greatest hits.
Oui, c'est ça. Avec des nouveaux casse-types, mais ouais. C'est la même affaire de bien et de mal. Et là, les trilogies parallèles ou les TV shows, c'est là que ça marche. J'ai commencé à écouter Obi-Wan. C'est que, comment je peux dire ça? C'est qu'il y a le temps de développer, il y a le temps de mettre en scène. Il y a le temps. T'as pas le temps en 2h30 avec Star Wars. Il y a trop d'affaires à.
La franchise est trop grande. Ouais. Ils veulent introduire de nouveaux personnages. Puis après, fermer la boucle de certains personnages. Comme à 7, 8, 9.
Ressusciter des personnages qui sont morts.
Ouais.
Fait que ça finit
plus. Puis en tout cas, il y a toute une histoire de que supposément ça va être 3 directeurs. Puis là, ça tout comme aller gauche à droite. Là, les,
ouais.
Il y a toujours les exécutifs qui ont un peu changé l'histoire. Puis là, la 9e, ça comme tout... Ça, honnêtement, la trilogie a été vraiment... Ça l'a bien commencé
ouais.
Pour ramener tous les fans.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment apprécié le Last Jedi, le deuxième.
Ouais.
J'ai vraiment aimé les scènes d'action et tout. Mais le troisième fait juste fermer l'histoire vraiment bizarrement. Ça s'est tout dégringolé très rapidement devant ouais. Nos yeux.
Mais... Puis on parlera pas d'Han Solo, qui aurait pu être une histoire incroyable, de la rencontre d'Han Solo et de son Wookiee Chewbacca.
Ouais.
Et ça, ce sont, ça, là, c'est comme...
Tu vois, ça, c'était leurs premières erreurs de Disney qui ont dit « On va slow down les films de Star Wars. » Puis qu'ils sont concentrés plus à
Qu'est-ce
les
Qu'est-ce que tu dis, slow down?
Parce qu'ils ont fait Rogue One.
Ouais.
C'était un succès.
Ouais.
Solo, c'était pas un succès.
Non.
Puis ils voulaient faire un troisième Solo, que c'était supposément... me semblait que c'était pas Obi-Wan, mais ils l'ont transformé en un TV show.
Okay, okay.
Mais ils ont arrêté après Solo parce que ça s'est juste pas donné. C'était pas un hit pour eux.
Okay.
Fait qu'ils ont dû tout arrêter, qu'est-ce qu'ils devaient faire, puis comment restrategize leur rollout des shows. Puis c'est pour ça qu'il y a comme 40 000 shows. Mais honnêtement, il y a un que j'ai aimé.
Quand Jon Favreau écrit, que c'est quand même. Il connaît l'univers, ça, ouais, c'est solide.
Tu peux voir quand ils sont des fans. Tu sais, comme Dave Filoni. C'est lui? Non. Je sais pas si c'est Dave Filoni qui est un fan, mais je pense que c'est James Mangold. Ah, je mélange les noms. Anyways, mais ils sont tous des fans. Fait que ils connaissent vraiment comme qu'est-ce qu'il faut faire puis comment.
Mais c'est ça qu'il disait de J.J. Abrams qui allait comme sauver la franchise. Puis il nous a laissé un petit peu sur notre fin. C'est comme bon retour, bon comeback.
Il a ressuscité la franchise, mais là.
Il l'a ressuscité, mais ça prend un push de plus. Hey, je pensais pas qu'on allait parler de Star Wars juste en parlant de Species, qui est un film, pour moi, de série Z, mais juste pour les effets spéciaux qui ont mal vieilli, mais qui sont du grand maître, le seul maître de ce genre de bibitte-là, H.R. Giger, ça vaut la peine.
Mm.
Mais là, je ne veux pas mettre la barre trop haut. Vous allez écouter le film, vous allez me tirer les Rotten Tomatoes.
Tu parles comme c'est un classique, là.
Non,
Species
classique.
2 de tous les films. Là.
Non, il y a 3 puis il y a 4.
Ouais, straight to DVD.
Mettez ça dans le recyclage directement, ça passe pas goût.
On a joué du naze. Excusez pour la longue discussion de marionnettes. On a joué du naze avec Lil Wayne. La chanson s'appelle Never Die de l'album Magic 3, la conclusion de la saga de 6 albums de Nas avec Hit Boy. C'était un 3 ans que Nas a juste shooté back-à-back des albums.
En 3 ans, il a fait 6 albums.
6 albums.
OK. Fait que King Gizzard ont de la compétition.
Il a raised the bar comme le gars qui, ça fait un long temps, puis il s'est dit, moi, là, je veux juste avoir du fun, puis juste aller all out. C'est pour ça que Nas, quand tu l'entends qu'il rappe, on dit qu'il y a du fun. Les autres albums, c'est genre, c'est construit, puis c'est un projet. Mais lui, il s'est dit, je veux juste avoir du fun, puis ça va être des bangers.
C'est-tu plus freestyle, tu penses? Ou?
Ben, c'est un peu de tout. Il a toujours été un bon storyteller. Il raconte des histoires, des scénarios. Puis, tu sais, comme celui-là, tu l'entends juste qu'il y a du fun. Puis Lil Wayne qui embarque là-dessus, puis il fait juste rapper, genre... c'est Lil Wayne. Lil Wayne, il est considéré comme un des meilleurs lyricistes, c'est juste par sa façon, comment il rap off his head. Là, il écrit.
Fait que c'est pas écrit, c'est freestyle, c'est, il voit ça dans sa tête, puis ça sort comme ça sort.
Parce que Lil Wayne, il est connu pour des chansons dans le passé, dans les derniers 15 ans, que c'était des gros hits, mais dernièrement, Lil Wayne, il a juste sharp ses skills, puis... Tout le monde dit que c'est un des meilleurs lyricistes à ce point-ci. Puis, en tout cas, ça, c'est une des chansons qu'on peut voir pourquoi on parle de lui. Fait que, ça, c'était naze. Puis,
la production est assez old school. Là. Même si c'était fait cette année, ça sonne du rap old school et
exact.
Non de la nouvelle école.
Mais ça, Hit Boy, c'est un jeune producer, là, je pense, dans la mi-trentaine, début trentaine, qu'il a eu ses hits il y a peut-être 14 ans. Il avait fait des beats... avec Kanye, Jay-Z, tout ça. T'sais, c'est là où son nom était devenu populaire, A$AP Rocky. Puis là, il a fait ses petits projets, mais juste dernièrement, il a team-up avec Nas, puis il a juste shooté 6 albums que, honnêtement, c'est quelque chose à écouter, surtout pour Nas. Cette année, actually, il célèbre ses 30 ans pour Illmatic.
Ouais.
Fait que...
Une édition spéciale, j'imagine.
Ouais, je serais pas surpris que...
J'essaie de m'en procurer, celle-là, parce que j'ai un livre à lire qu'on m'a gentiment donné, mais je veux avoir la musique pour accompagner le livre.
Moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'il reprend ses droits de masters de ses albums, de son premier label, parce qu'il y a du bon contenu que genre ça a été gardé sur le côté. Surtout son album I Am Nostradamus, c'est l'album que genre ça a été bootlegué, fait que ça a tout changé.
C'est l'album qui est comme en pharaon. C'est super ça, comme
fait que, il y a des bonnes chansons et tout, mais le vrai album n'a pas été comme sorti à 100% avec toi, avec les inédits et les affaires.
Fait que ça va être comme le Director's Cut, ça va être comme qu'est-ce, comment que lui voyait l'album.
Fait que j'ai hâte que, je sais pas, c'est dans 2029, je sais pas, mais c'est quelque chose que ce genre de projet qui va, s'il le revisite, c'est quoi qu'il va faire avec. J'ai vraiment hâte de voir ça. Si ça sort un jour, ça fait que ça, c'est le fan en moi.
Ben, je te le souhaite. En parlant de fan en toi, à la pause, on parlait de Cypress Hill qui vont être partout cet été. Au festival à Trois-Rivières, à Victoriaville. Je ne sais pas s'ils sont au FEC. Ils sont peut-être même à Baie-Saint-Paul, au Festif. En tout cas, ils vont à des places que je me dis, aïe, je ne m'attendais pas à ce qu'ils ratissent aussi large au Québec. Là. Ils sont partout, honnêtement. Fait que si vous êtes dans un festival, vous aimez Cypress Hill, manquez-les pas. Moi, dans
ils sont
le temps,
fun à voir.
Hein, ben c'est ça, toi, t'es vu. Puis moi, c'était la première fois que j'entendais un groupe rap en résidence. On a déjà parlé à Las Vegas.
Ouais.
J'avais vu des images. Je me disais, ah, ça a l'air cool. Je vais aller à Las Vegas juste pour aller voir Cypress Hill. Là, ils sont au Québec. J'irai pas. Non, c'est pas vrai. Je vais essayer de m'arranger pour aller voir Cypress Hill à quelque part en région. Là, pas à Montréal. Je veux aller les voir à une place que je ne m'attendrais jamais à les voir.
Oui, ça
va être spécial.
Voir Cypress quelque chose, mais le crowd,
ouais,
je pense que ça va être beaucoup de monde qui va faire la route. Là. Mais même à ça, tu vas pour voir Cypress. C'est le fun à voir. Là. C'est entertaining. Là. C'est comme si...
C'est des showmen. Hein?
Oui, c'est des showmen.
Puis ils ont tellement de hits. The greatest hits.
Oh, ouais, c'est une heure et demie solide. Puis même un peu de freestyle. Il y a même des solos de percussion. Ça garde...
T'es
attaché.
C'est plus organique, c'est plus avec des vrais instruments.
Oui. C'est pas comme le... You know, il y a du monde qui aime se voir, you know, d'une certaine façon, il y a le DJ en arrière, ça joue des chansons, mais Cypress, à cause de leur influence des bandes de rock, ils aiment ça présenter de cette façon-là, dans ce format.
Parce qu'ils ont des vrais instruments, comme guitare, drum, bass?
Je suis pas certain. Tu sais qu'il y a les congas.
Oui, c'est Bobo.
Oui, de Rick Bobo.
Puis le DJ qui est suit, ça serait qui?
DJ Lord, me semble.
Okay,
qui est le DJ de Public Enemy de récemment. Ouais. Si Public Enemy, ils font encore des tournées.
Mais ce DJ-là, c'est fou. Tout ce qu'il pose, je suis sur les Instagram des compagnies. Puis Star.
C'était le DJ quand ils ont formé Prophets of Rage, parce qu'il était déjà DJ pour Public Enemy.
OK.
Puis c'est lui qui
l'ont rapatrié.
Ouais. Fait que si Public Enemy il a pas de job, ben il est embarqué avec Cypress Hill.
Ah, puis toi, tu l'as vu avec Prophet of Rage?
J'ai vu Prophet of Rage, oui. Mais Cypress, je pense que c'était leur DJ avant qui était Tony G. C'est un ancien radio DJ de Los Angeles.
Okay.
Si je me rappelle bien, ça fait tellement longtemps, ça fait au moins 10 ans de ça. Fait que je savais que c'était pas DJ Muggs, DJ original, le producer.
Ouais.
Puis, mais même à ça, tu sais, c'est un showmanship, là. C'est vraiment cool à voir. C'est vraiment fun.
Sortez les blunts. ou pas. Le temps file. Je veux te remercier d'avoir embarqué dans mon délire de musique. Tu es vraiment comme la pièce manquante au puzzle. Si moi qui pensais connaître la musique... Ben, la personne qui en connaît le plus est en face de moi.
Ah, merci, merci.
Puis le cinéma aussi. Fait que j'ai un musicien qui comprend la composition de la musique et qui l'apprécie. Ça, c'est encore mieux. Ah. Fait qu'on a les deux côtés de la médaille. Fait que le show le lendemain de la veille, c'est de l'or en barre. Écoutez ça. Je veux faire d'autres shout-outs à du monde qui nous écoute. Je sais pas si tu étais là. On nous écoute. J'avais été au Mexique. Puis il y a des francophiles au Mexique, d'amis en amis qui savaient c'était quoi notre émission, qui connaissaient, qui connaissaient à l'Université McGill. Demande-moi pas pourquoi. peut-être qu'ils voulaient venir étudier l'anglais, je ne suis pas sûr. Puis ils connaissaient l'émission. Puis je pense mon ami Deken, que je salue, leur en avait parlé. Fait que il y a du monde qui nous... Il n'y a personne qui nous écoute à Montréal, mais on est écouté par 3 personnes francophiles au Mexique.
C'est ça
notre fanbase.
Shout-out à eux. Là.
Shout-out. Respecto à nuestra gente de Quintana Roo, represent. Mais aussi le monde à ma job, c'est que j'achale à chaque semaine, j'achale sur mes réseaux sociaux qui sont tannés. Mais merci de nous écouter, Sébastien, Kenya, toutes mes... mes amis qui sont dans la musique, qui me font un petit corazón ou un thumbs up. Merci, c'est notre paye. Puis écoutez les autres émissions. Puis je veux remercier aussi notre productrice Jack. Puis aussi Ramon Vitesse qui a une émission à sécurité qui ressemble pas mal à la note finalement. Il y a un côté punk rock puis la bande dessinée. Fait que c'est si vous aimez entendre de musique punk, écoutez son émission. Ramon Vitesse m'a facilité pour CKUT 90.3 FM qui est sur le McGill, que vous pouvez réécouter. Vous pouvez écouter nos premières émissions qui étaient peut-être moins bonnes, moins bien enregistrées, plus punk rock, plus metal. Avec le temps, on écoute d'autres musiques, on mixe ça dans le blender le matin, mm-hmm. puis on se fait un smoothie. Le temps file, est-ce que tu penses qu'on y va en musique?
Voilà, en musique, on va finir le show avec une année dernière. On va vous jouer du Gary Numan, Essayez de deviner la chanson.
Oui, puis il était à Montréal avec Ministry, oh. puis il paraît que ça a été... des amis qui allaient voir Ministry ont été vraiment impressionnés par Gary Numan. Puis même Ministry, il paraît que le son était débile. J'ai vu des images. Eux aussi, c'est des greatest hits. C'est des succès un après l'autre. Et il y a du visuel. Puis juste voir Al Jourgensen live, c'est comme voir l'apparition de Jésus-Christ, je pense. Un homme avec les cheveux longs noirs, un chapeau de cowboy, une barbe. Qui a fait toutes les...
Il est tout gentil, le monsieur, puis il a juste plein de piercings.
Ouais. Il est un peu intimidant. Il a l'air badass. Là. Quand tu fais une tune qui s'appelle « Jesus build my hot rod », là... Mais, fait que c'est ça. Fait qu'on va écouter ce grand personnage qui a ouvert pour Ministry il n'y a pas longtemps.
That's it. est de retour, le lendemain de la veille, c'est CKUT 90.3 FM. On vous rappelle que c'est la 100e épisode. On va finir la 100e avec Gary Numan Films, sorti en 78, l'album The Pleasure Principle. Merci, Marc-André.
Ça sonne actuel, c'est ça qui est cool, hein?
Mm-hmm.
Hey, il me reste une minute.
Un petit shout-out au film...
De T-West, qui s'appelle tout simplement... Ben, c'est l'origine de Pearl, de l'histoire de XXX Story. Vite, c'est que sur la ferme familiale, Pearl est isolée de tout, puis tu sais, elle cherche là, la célébrité, puis tout ça. Puis elle peut pas être sur une ferme, puis il faut qu'elle s'occupe de son père qui est malade, sa mère est super autoritaire, puis pieuse. Mais Pearl, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle tombe dans son monde imaginaire, puis c'est comme un Wizard of Oz avec Dorothée, mais sur une ferme. C'est un Wizard of Oz, mais evil. Là, t'sais. Moi, je vous le recommande, j'ai eu bien du plaisir. L'actrice.
Gente, siguen escuchando CKUT 90.3 FM. Mi nombre es Boca Floja de Quilombo Arte.
Slowly though, es la guaracha de un camacho. Desde macho inquisidor de su gazpacho melancólico. El buen salvaje de la turma, capaz de la suma. Comunica, se entreteje y ahora pulula. Aprieta mano que el gusano no bendice.
La chanteuse québécoise Andrea Superstein est l'une des voix les plus polyvalentes de la musique d'aujourd'hui. Son nouvel album, Oh Mother, est un ambitieux tour de force qui met en lumière sa créativité et sa sensibilité croissante en tant qu'auteure-compositrice.
Can you hear me calling out your name?
Oh Mother est disponible dès maintenant et Andrea se produira au Upstairs Jazz Club de Montréal le vendredi 3 mai. Pour plus d'informations sur le spectacle, visitez le site upstairsjazz.com.
Help us spread the word. CKUT is looking for someone to join our team as the chair of the board of directors. Our board of directors reads the fine print, approves the annual budget, engages in community outreach, and keeps CKUT's eye on the bigger picture. The board meets for 2 hours every month, and the chair circulates agendas, keeps meetings organized, and acts as a liaison between the outside world and the board. If you're passionate about the station, this is an opportunity to help lead CKUT into a new era of community media. For more information, please send a message to admin@ckut.ca.
Fade, Ferchocalipsis Tour 2024, en vivo en el Bell Center, sábado 1 de junio. Boletos a la venta ya en evenco.ca.
Vous écoutez CKUT 90.3.